nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
On retrouve Paul Caro, correspondant de l'Académie des sciences, qui, sur Canal Académie, se fait journaliste pour interviewer l'un de ses confrères de l'Académie des sciences.
Monsieur Maurice Goldman, vous venez d'être élu à l'Académie des sciences. Vous êtes l'un des grands spécialistes français de la résonance magnétique nucléaire, ou RMN. Comment et quand ce phénomène a-t-il été découvert ?
Eh bien, ce phénomène a été découvert en fin 1945 par deux groupes américains, dont l'un se trouvait sur la côte est à Harvard et l'autre sur la côte ouest à Stanford. Et cette découverte a été rendue possible grâce aux progrès réalisés en électronique pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment de cette découverte, les phénomènes paraissaient tellement différents d'un côté et de l'autre et les descriptions qu'ils en donnaient tellement différentes que pendant plusieurs mois, ils ont cru avoir fait des découvertes différentes. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'ils sont aperçus que c'était exactement le même phénomène, décrit de deux façons différentes.
Et c'était lié aux états de base du proton ?
Ça a été fait sur des protons, dans de l'eau ou dans la paraffine.
Oui.
À Harvard, il décrivait ceci dans le langage de la spectroscopie avec des niveaux d'énergie et des transitions entre niveaux d'énergie. À Stanford, il décrivait ceci par l'image d'une aimantation nucléaire tournante qui induisait une force électromotrice dans une bobine. C'était en fin de compte le même phénomène.
Mais vu avec deux angles différents.
Et c'est Félix Bloch, qui était à Stanford, qui s'est aperçu que c'était la même chose. Mais alors, la raison profonde pour laquelle on ne s'en est pas aperçu, c'est qu'on faisait une excitation, pour faire de la spectroscopie, avec un champ magnétique tournant qui correspond à ce qu'on appelle un rayonnement cohérent, qui n'existait pas en optique. Mmh. Donc, on n'avait pas du tout l'idée de cette analogie entre une aimantation qui introduit une force électromotrice et une absorption pure et simple, parce qu'on avait un style de source d'excitation qui était tout à fait nouvelle. Par la suite, ça donnait les masers et les lasers qui sont de même nature.
Donc c'était un rayonnement cohérent radio, donc finalement.
Absolument radio. Ah,
très bien. Vous avez beaucoup étudié le concept de température de spin. Pouvez-vous en donner une idée ?
Eh bien, très rapidement, le concept de température de spin, qui était quelque chose d'un peu qualitatif, s'est raffiné pendant le 19e siècle, sous l'influence en particulier de Maxwell et surtout Boltzmann et d'autres. Et on est arrivé à la conclusion, ce à quoi ils sont arrivés, c'est que dans un système physique où il y a un certain nombre de niveaux d'énergie qui sont possibles, il s'établit un état d'équilibre dans lequel les populations des différents niveaux d'énergie suivent une loi bien déterminée. Ils sont d'autant plus peuplés que l'énergie est plus basse. Et la loi mathématique qui décrit ça, qu'on appelle la loi de Boltzmann, permet d'introduire un paramètre qui s'appelle la température. Dans les systèmes en RMN, qui se composent de systèmes de moments magnétiques nucléaires qui, dans un champ magnétique, possèdent également des niveaux d'énergie, et il y a des interactions entre les noyaux qui élargissent ces niveaux d'énergie, on a introduit l'hypothèse que, dans un état de régime, il peut exister une distribution de Boltzmann parmi les populations de ces états, et on a défini ainsi une température de spin qui peut être différente de la population du milieu environnant pendant des temps qui peuvent être des millisecondes, des secondes, voire des semaines ou des mois, selon les systèmes. Et alors, il y a une caractéristique tout à fait spéciale des systèmes de moments magnétiques nucléaires, c'est que, contrairement aux systèmes physiques habituels, il y a une borne supérieure à l'énergie que ces systèmes peuvent avoir dans un champ magnétique, si bien qu'on peut réaliser des distributions d'équilibre où ce sont les états de plus haute énergie qui sont le plus peuplés. Et pour garder la cohérence de la description de Boltzmann, on est amené à attribuer à ces systèmes une température absolue négative. Et ceci est totalement inconnu des autres systèmes physiques, mais on a montré très abondamment que ça a une signification physique tout à fait concrète et réelle.
Très bien, mais je vous remercie, c'est une bonne explication. Mais l'ARMN n'est-elle pas devenue une technique fondamentale des chimistes pour l'analyse structurale moléculaire ?
Absolument. Après avoir été fondamentalement un outil mathématique et physique, la RMN a connu des applications dans de nombreux domaines, en particulier en chimie, où grâce au développement dans les années fin 60 et 70 de méthodes spectroscopiques à plusieurs dimensions de fréquence, on a mis au point une panoplie de méthodes qui permettent d'étudier la structure et la dynamique des molécules petites ou grandes, aussi bien des grosses molécules biologiques en solution que dans les poudres de solides, par exemple.
Et alors, on fait des mesures sur le proton, bien sûr, mais il y a d'autres, d'autres atomes qui sont utilisés.
Bien sûr,
le carbone 13, par exemple.
Le proton, on l'utilise beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les organismes et dans les molécules, dans les protéines, par exemple. Mais on fait des études sur le carbone 13, le phosphore, l'azote 15, pratiquement tous les noyaux qui ont un moment magnétique. Et il y en a à peu près une centaine.
Est-ce que dans les moyens pour enregistrer ces spectres, on n'utilise pas des noyaux magnétiques, enfin oui, magnétiques pour déplacer les rays, pour le chemical shift, pour avoir des...
Ah bien alors, ça c'est autre chose. C'est que quand vous êtes dans une molécule, dans n'importe quel solide, les noyaux, ils ne sont pas tout seuls, ils ont des électrons autour d'eux. Or, quand vous mettez les électrons, le système dans un champ magnétique, eh bien, les électrons acquièrent une petite aimantation. Et alors, de ce fait, ils créent un champ supplémentaire à l'emplacement des noyaux qui déplace leur fréquence de résonance. Et ce déplacement dépend de la structure électronique autour de chaque noyau, donc des liaisons chimiques dans lesquelles ils sont engagés. C'est ce qu'on appelle le déplacement chimique, dont des études à la fois théoriques et surtout expérimentales ont permis de déterminer les gammes. Et c'est ainsi qu'on arrive, par exemple, immédiatement, quand on prend un spectre, à reconnaître quelles sont les molécules ou quels sont les différents acides aminés dans une protéine.
Alors, l'ARMN est devenue l'IRM depuis qu'elle connaît une application à l'imagerie médicale. Alors, jusqu'où pourra aller ce type de technique ?
Alors, d'abord, l'IRM, ça n'est pas la RMN, c'est une application de la RMN, et au début on parlait d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et comme ça s'est développé en médecine, et que les gens moyens avaient peur du mot nucléaire, on a supprimé nucléaire, c'est devenu l'imagerie par résonance magnétique ou IRM.
Et en quoi est-ce qu'elle progresse ? Est-ce qu'elle est de plus en plus fine ? Est-ce que la résolution
est... Absolument, elle est de plus en plus fine.
C'est dû à quoi ? À la puissance des aimants
C'est la puissance des aimants, pas tellement. On ne peut pas monter très haut parce qu'on a un phénomène qu'on appelle la pénétration, l'effet de peau, qui fait que quand on est dans des champs trop élevés, eh bien, le rayonnement ne pénètre plus dans le corps et on n'arrive plus à le voir. En pratique, on est entre 1,5 et 3 Tesla, sont des unités de champ magnétique. Les progrès sont dus essentiellement à ceux de méthodologie utilisée et des progrès dans l'électronique et des progrès dans le traitement informatique des signaux.
Dites-moi, l'ARMN est surtout utilisée dans le milieu liquide, mais aussi en milieu solide. Il y a des techniques qui permettent de
énormément
faire de l'ARMN.
Il y a eu, au cours des 20 dernières années, une véritable révolution en chimie des solides, où on a développé tout un ensemble de techniques qui permettent de déterminer justement les propriétés des solides. Et comme beaucoup de solides, on ne sait pas les obtenir autrement que sous forme de poudre, il a fallu développer des techniques qui s'appliquent aux poudres. Or, quand on met une poudre dans un champ magnétique, les différents cristallites ont des orientations différentes par rapport au champ magnétique, ce qui modifie également leurs propriétés spectroscopiques. Et il a fallu se mettre à l'abri de tout ça, ou bien supprimer ces effets d'anisotropie par des méthodes appropriées, ou bien les déterminer de façon indirecte et en tirer parti pour obtenir des informations structurelles sur ces solides.
C'est quoi la rotation angle magique que les chimistes du solide utilisent résoudre ce problème ?
Les aimants, les noyaux magnétiques qui sont de petits aimants exercent un champ l'un sur l'autre. Et quand on est en champ élevé, il y a une petite partie seulement de ce champ qui est efficace pour provoquer un élargissement des spectres de résonance. Et alors ça, c'est très gênant parce qu'on n'arrive plus à avoir des effets plus fins qui permettraient de distinguer différentes espèces des mêmes noyaux, mais impliqués dans des liaisons chimiques différentes. Il se trouve, et ça on peut le montrer, que quand on fait tourner l'échantillon très vite autour d'un axe qui fait un angle de 54 degrés et quelques par rapport au champ magnétique, un angle θ tel que cosinus θ soit égal à 1 sur racine de 3, il se trouve que la moyenne de ces interactions dipolaires s'annule. Alors quand on fait cette rotation, au début on allait lentement, maintenant on va jusqu'à 40 ou 50 milliers de cycles par seconde, 50 kHz de rotation, eh bien on a des raies qui deviennent étroites. Et on arrive à voir séparément des déplacements chimiques d'espèces qui sont liées dans des, qui sont impliquées dans des liaisons chimiques différentes. Et de plus, si on change la vitesse de rotation, on voit également apparaître des raies satellites qui permettent de déterminer ce qu'on appelle l'anisotropie du déplacement chimique, qui n'est pas le même selon différentes directions. On peut également établir des corrélations entre l'anisotropie du déplacement chimique et les interactions dipolaires, ce qui établit une corrélation entre l'orientation relative de deux noyaux et l'orientation de leur tenseur de déplacement chimique.
Très bien. Dites-moi, mais quelles recherches fondamentales sont encore à conduire en physique dans le domaine de la RMN ?
À mon avis, et sauf contre-ordre, le dogme est terminé. C'est-à-dire que toutes les propriétés fondamentales, je crois, ont été éclaircies, mais la RMN reste un outil. Et dans des tas de problèmes physiques, c'est un outil qui, conjointement à d'autres, permet d'obtenir des résultats tout à fait fantastiques. Pour donner un seul exemple, il existe depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle les supraconducteurs à haute température, dont on ne connaît toujours pas la cause, dont on ne connaît pas exactement les interactions. Et l'outil qui s'est avéré le plus efficace pour déterminer quelles sont ces interactions, c'est la résonance magnétique nucléaire.
Donc en général, ce sont des matériaux solides, ce sont des supraconducteurs à température critique plutôt.
Pas forcément. Il y a aussi des développements, par exemple, on parlait de la chimie des liquides. Il y a des tas de nouvelles qui paraissent tous les jours qui permettent d'apporter de nouvelles informations. De même, en imagerie médicale ou autre, on a à chaque fois de nouvelles méthodes qui apparaissent et qui permettent de faire des choses nouvelles. Alors ça, c'est vraiment point par point. Tout dépend de l'inventivité des gens.
Vous nous avez fait profiter grandement de votre expérience de la RMN. Et j'espère que c'est une technique qui va continuer à se développer, ou du moins à rendre des services dans les disciplines les plus variées, finalement.
Si je peux citer un confrère de l'Académie, que je ne nommerai pas, il avait cité un physicien anglais qui avait dit « Quand les chimistes pénètrent dans un domaine, il est temps d'en partir. » Alors, ceci a été ensuite remplacé par les médecins. « Quand les médecins pénètrent dans un domaine, il est temps que les chimistes s'en aillent. » Et maintenant, c'est le rôle des banquiers, parce que ça rapporte tellement d'argent que les banquiers supplantent les médecins.
Eh bien, écoutez, voilà qui est très bien, une belle conclusion. Merci, M. Goldman.
Je vous en prie.